Moi, j'ai eu la chance d'être président pendant presque 12 ans. Il ne faut pas faire le mandat de trop. À un moment donné, il faut dire stop. Il faut un œil neuf. Mon successeur fera des choses encore mieux que moi. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est une entreprise, c'est un service qui est devenu vital. La France ne peut pas se passer de ses trains, ne peut pas se passer de la SNCF.
Et l'omniprésident de la SNCF, c'est encore un peu lui, Guillaume Pepy. Très bientôt, ce sera vous, Jean-Pierre Farandou. Allez, la grève mardi prochain, l'appel des cheminots de la CGT, vous y couperez, vous, Jean-Pierre Farandou. Vous arrivez plutôt en octobre, si je comprends bien. Bon, de toute façon, vous le savez, un patron de la SNCF, ça n'est que pour quelques mois. Oui, non, parce que après, à partir de janvier 2020, vous serez aux commandes d'une entreprise que personne ne connaît et que les cheminots ne sont donc pas sûrs de vouloir. Une société anonyme qui ne recrutera plus ses agents au statut, qui devra à la fois faciliter l'arrivée de ses concurrents tout en se battant contre. Il faudrait aussi, Jean-Pierre Farandou, s'occuper de l'avenir du fret. De l'avenir des petites lignes, il faudrait gérer la rénovation du réseau et bien sûr arrondir les angles avec les clients. Le mieux, ça serait d'augmenter la productivité pour faire des économies et sans recreuser la dette. Et évidemment, tout ça sur fond de réforme des régimes spéciaux de retraite. Alors si je résume, votre mission, c'est une métamorphose plus réussir tout ce qu'on n'a pas réussi à faire durant ces 10 dernières années. Jean-Pierre Farandou, chef de gaz à gare à Rodez, devenu patron de la filiale Keolis. Vous avez 5 ans.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Chef de gaz, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Une émission réalisée par Coyen Guyenne, Valentin Pérez est attaché de production. Et à la technique ce matin, c'est Tiffany Battistel qui nous accompagne. Manifestation pour le climat, sommet spécial lundi à l'ONU à New York ce samedi. Le Mageco parle d'argent et d'écologie. Comment financer la transition? En France, le débat sur la taxe carbone est reparti. Est-ce que c'est bien raisonnable? Ce sera votre débat, Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Un petit mot sur Jean-Pierre Farandou, Emmanuel?
Ah oui, bah il a des atouts quand même pour réussir. Hein. D'abord, il connaît parfaitement la SNCF. En plus, on sait qu'il ne sera pas candidat à sa succession, ce qui laisse des marges manœuvres.
Ah oui, il a 5 ans et rien que 5 ans.
Il a un gros handicap, c'est son actionnaire. Son actionnaire qui veut le beurre, c'est-à-dire les profits, l'argent du beurre, un service public de qualité et le sourire des cheminots. Ça va être compliqué de gérer un actionnaire aussi encombrant que l'État.
Ouais, c'est un peu Tom Cruise, Mission Impossible. On va voir, et on va voir pendant 5 ans. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour à vous.
Bonjour.
Christian, on me dit que les économistes ont des choses à dire sur à peu près tout, y compris le rugby.
Ben oui, c'est la Coupe du Monde de rugby, l'équipe de France qui commence aujourd'hui. Et en fait, ils essayent de mondialiser le rugby. C'est la première fois que ça se tient en Asie, au Japon, parce qu'il y a les infrastructures du stade. C'est une compétition très jeune, hein. C'est seulement la 9e, avec un sport très ancien qui date de la fin du 19e. Vous savez qu'en France, il se développe avec les zones portuaires, là où il y avait des Britanniques en fait. Et ça se développe dans le quart sud-ouest de la France. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça se développe surtout dans les territoires qui étaient opposés au catholicisme. Donc il faut nous expliquer ça, pourquoi. Voilà. Alors, au Japon, gros enjeu.
En tout cas, mondialisation et rugby. Ok, vous restez avec nous quand même, Christian, hein, parce qu'on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débat. Ce que peut la finance verte pour sauver la planète? Vous entendrez le reportage de Caroline Pommès. Et est-ce que les banques se mobilisent assez pour lutter contre le réchauffement? On fera le point avec le directeur général du Crédit Agricole, Philippe Brassac, interview vers 9h45. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Ce matin, Hugo vous a écrit.
Oui, même les entreprises font grève pour le climat. Est-ce une façon de s'acheter une bonne conscience verte?
Question. On se retrouve juste avant 10h pour la réponse. Tout de suite, drôle de semaine quand même. Hein. D'abord une grosse frayeur sur le prix du pétrole, et puis tout à coup, la taxe carbone, le retour.
« 18 septembre 2019.
Séisme sur le marché du pétrole. Le prix du baril s'est envolé ce matin, plus 10% en seulement quelques heures. »
Le gouvernement français a appelé les pétroliers à la modération sur la hausse des carburants. L'augmentation de 5 centimes par litre d'essence à la pompe dès cette semaine.
Une préconisation de la Cour des comptes, selon elle, la France ne pourra pas éviter une hausse de la taxe carbone.
Le premier constat de ce rapport,
Didier Migaud,
est que la fiscalité carbone est un instrument efficace.
Premier président à la Cour des comptes.
De réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les simulations conduites par le Conseil des prélèvements obligatoires démontrent également que la fiscalité carbone contribue à la réduction des émissions polluantes de 5% à 18% en 2030 par rapport à 2019.
Il est évident que si on reprend ce terme de taxe carbone, qu'on l'augmente,
Yves Carra,
ça, on a toutes les chances que le mouvement des Gilets jaunes reparte de plus belle.
Porte-parole de l'association Automobile Club.
Arrêtons de prendre de l'argent pour le redistribuer. Laissons un peu plus d'argent aux personnes qui en ont besoin. Ménages moyens comme les plus démunis. Hein. Parce que l'essence, il y a quand même 70% des Français qui considèrent que leur voiture est indispensable. 70%. Hein.
Le gouvernement Sibeth Ndiaye a annulé toute hausse de la taxe carbone dans le cadre de son budget en 2019.
Porte-parole du gouvernement.
Et ce sera à nouveau le cas en 2020. Donc nous n'envisageons pas de hausse de la taxe carbone.
Que ce gouvernement,
Yannick Jadot,
qui a mis en place un comité citoyen pour répondre à cette question de la fiscalité carbone, le laisse travailler.
Député européen, Europe Écologie Les Verts.
Parce que là, ce qu'est en train de faire le gouvernement, c'est de refuser une évolution nécessaire qui a eu lieu dans d'autres pays, qui s'est avérée extrêmement positive pour les citoyens, pour leurs déplacements, pour les plus modestes. Ce qui dit bien que ce gouvernement, dès qu'il s'agit d'écologie, eh ben malheureusement, ce sont des renoncements.
Moi, je pense qu'il faut faire bien plus que ça.
Adrien Quatennens.
Et ça n'est pas par la taxation et la fiscalité qu'on va régler le problème écologique, si vous voulez.
Député La France Insoumise.
Quel est le sens de dire il faut relancer la taxe carbone quand dans le même temps on signe à tour de bras des accords de libre-échange qui poursuivent un modèle obsolète de déménagement du monde? Oui, mais si vous voulez, même vous avez beau être strictement dans des comportements vertueux d'un point de vue écologique, si 80% des émissions de gaz à effet de serre sont le fait de 30 multinationales, vos comportements vertueux individuels n'y pourront rien.
Beaucoup de choses dans le débat. Christian Chavagneux, la taxe carbone.
Oui.
D'abord, comme d'habitude, vous nous faites la photo.
C'est une taxe sur les émissions de CO2 selon un principe pollueur-payeur. Plus vous en émettez, plus normalement vous devez payer. Ça porte sur une partie des transports. Aujourd'hui, c'est 44,60 € la tonne. Alors, il y a que 25 pays au monde, en fait, qui ont une taxe carbone. Nous, on a la cinquième plus élevée au monde. Les premiers, c'est les Suédois. Pour un ordre d'idée, c'est 107 € la tonne. Nous, on est à 44, donc ils sont vraiment bien, bien plus hauts. Mais dans plus de 3/4 des pays, la taxe est inférieure à 8 € la tonne. Donc, en fait, c'est pas un instrument très, très utilisé. Peu de pays, et quand c'est utilisé, c'est pas très cher. En fait, les taxes existantes aujourd'hui couvrent moins de 15% des émissions de CO2. Donc, en fait, c'est un tout petit outil utilisé au niveau mondial. Les premiers pays qui l'ont mis en œuvre, c'est la Pologne, la Finlande dans les années 90. Nous, en gros, on était le 30e pays vers 2014. Mais les premières taxes à vocation environnementale chez nous, ça date des années 60 sur la prise d'eau et ça date selon un principe pollueur-payeur pareil.
Donc, ça s'applique à tous les produits qui émettent du carbone.
C'est surtout
carboné.
Sur le transport, en fait, hein, que ça porte.
Est-ce qu'on sait combien ça rapporte, Emmanuel Le Chypre, aujourd'hui, la taxe carbone en France? Et puis, puisqu'on sait que la hausse en 2019 a été annulée, est-ce qu'on sait combien ça aurait dû rapporter?
Alors, on sait qu'il y a à peu près une grosse cinquantaine de milliards en France qui viennent de l'ensemble. Hein, parce qu'il n'y a pas que la taxe carbone dans les taxes dites écologiques. Il y en a une cinquantaine et c'est à peu près un peu plus de 50 milliards d'euros. Alors après, la taxe carbone, au départ, elle était pas chère. Hein, en 2014, c'était 7 € la tonne de carbone. Alors que tout le monde vous dit que le coût minimal environ d'émissions d'une tonne de CO2, c'est au minimum 30 €. Il faudrait 30 € pour couvrir le coût de l'émission d'une tonne de CO2. Ça a rapporté d'abord 300 millions. En 2018, comme ça a augmenté, comme l'a dit Christian, à presque 45 € la tonne, on était plus de 10 milliards. Et en fait, effectivement, ça devait continuer à monter comme ça jusqu'à quasiment 86 € la tonne en 2022. Et comme Emmanuel Macron a renoncé à augmenter cette taxe carbone, bah ça veut dire que c'est à peu près 13 milliards d'euros qui vont manquer aux recettes de l'État par rapport à ce qui était initialement prévu.
Alors Christian, vous dites que la taxe carbone, ça n'est qu'une partie. Ou Emmanuel, vous dites que la taxe carbone, ça n'est qu'une partie de la fiscalité verte. Vous nous faites un plus grand tableau?
En fait, il n'y a pas de politique fiscale environnementale. Autant vous avez une taxe sur la consommation, c'est la TVA. Vous avez une taxe sur le revenu, c'est l'impôt sur le revenu. Là, il n'y a pas une taxe sur l'environnement. C'est une addition, une sédimentation de plein de choses. Donc la fameuse contribution climat-énergie qu'on appelle taxe carbone, c'est une petite partie de la taxe intérieure sur la consommation de produits pétroliers, la TICPE. Donc là, on est plutôt autour de 35 milliards. Il y a la même sur le charbon, il y a la même sur le gaz. On est plutôt 40 milliards. Et puis en fait, le Conseil des prélèvements obligatoires, qui cette semaine donc, nous a sorti un rapport sur le sujet, nous dit qu'il y a 46 instruments fiscaux en fait, qui touchent à l'environnement, 38 niches fiscales qui nous coûtent 13 milliards. Des niches fiscales pour protéger malheureusement les énergies fossiles, mais aussi des niches fiscales qui permettent de réaliser de la transition écologique, la niche fiscale positive.
Est-ce qu'on sait où ça va, cet argent?
Oui, 40% ça va au budget de l'État, 20% ça finance vraiment les énergies renouvelables, 20% aux départements, 10% aux régions.
Alors, donc on a eu cette semaine le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires et qui dit bah ça serait bien cette taxe carbone. On l'a, là on a mis le doigt sur pause et puis ça serait bien de la remettre, comme disent les économistes, sur une trajectoire. C'est ça, Emmanuel, c'est-à-dire de l'avoir augmenté de nouveau.
Alors pour le coup, il y a une unanimité en fait, que vous preniez les spécialistes de l'environnement, les économistes, les comptables publics, comme on l'a eu cette semaine. Tout le monde vous dit effectivement que cette taxe, elle est efficace. Quand vous augmentez le coût de l'essence, eh ben ça fonctionne. Il y a des travaux de l'INSEE qui vous disent par exemple quand vous augmentez de 10% le prix d'un carburant, eh bien sa consommation baisse de 3,5% à court terme et de 7% à long terme. Donc ça marche. Ça marche incontestablement, ouais. C'est un outil qui fonctionne par rapport à l'efficacité sur l'incitation à moins consommer d'énergie. Après, le sujet, c'est que on a bien entendu les gilets jaunes.
Il y avait à la Cour des comptes, ils lisent le journal. Bah, je dis ça méchamment,
il y avait un problème d'acceptabilité. Et effectivement, le sujet, c'est pas tellement le fond, c'est la forme, c'est-à-dire la méthode, c'est comment on fait. Hein, et on voit bien que quand elle a été mise en place cette taxe carbone en 2014, il y a eu zéro pédagogie qui a été faite sur le sujet. Et puis, comme nous le dit le rapport du comité
du conseil des
prélèvements obligatoires, c'est que il y a quand même de l'injustice dans la façon dont est prélevée cette taxe. Est-ce que c'est normal, par exemple, que ce soit les ménages qui supportent les deux tiers de cette taxe alors qu'ils ne sont responsables que d'un tiers des émissions de CO2? Et puis, est-ce que c'est normal qu'elle frappe autant les ménages modestes que les ménages aisés, sachant que pour un ménage modeste, la dépense d'énergie, c'est 7% de ses revenus, et que pour un ménage aisé, c'est 2% seulement. Donc, il y a tout un tas de façons de reprendre la copie. Hein. Alors, il y a eu tout un tas de recommandations qui ont été faites. Ouais. Mais, grosso modo, le principe, il est quand même relativement, aujourd'hui, admis que cette taxe, elle est efficace.
Alors, Christian Chavagneux, est-ce que vous êtes d'accord?
Bah non, parce que moi, j'ai été surpris de lire dans le Conseil des prélèvements obligatoires, il y a tout un chapitre qui est sur le bilan, est-ce que ça sert à quelque chose? Je vous lis la conclusion, bah, ça m'a tellement frappé, je suis obligé de vous lire la conclusion. Globalement, la littérature relative à l'impact de la fiscalité environnementale sur les émissions polluantes n'arrive pas à un consensus. Il n'y a pas consensus chez les économistes. On a eu hier un autre rapport de l'OCDE qui dit la même chose. Très difficile de faire le lien entre les taxes, la fiscalité climat et la réduction des émissions. Donc, il n'y a pas vraiment, on est vraiment
c'est-à-dire
pas
c'est
sûr.
Pas comme pour le paquet de cigarettes, on se dit que ça devrait jouer,
que on va se rapprocher de notre travail, ou alors qu'on va passer au transport en commun, ou alors qu'on va prendre une voiture moins polluante. Mais honnêtement, vous prenez toutes les études qui sont citées par le Conseil des prélèvements obligatoires et disent là ça a l'air de marcher, là c'est pas évident. Donc il n'y a pas vraiment consensus. Par contre, là où il y a consensus, et pour répondre à votre question, Alexandra, c'est que c'est pas des crades d'œufs les gens qui travaillent dans leur petit bureau sans regarder ce qui se passe dans la rue. Ils disent clairement c'est régressif. Et le fait de mettre
socialement.
En place socialement agressif, c'est-à-dire que ça porte plus, proportionnellement plus, sur les plus pauvres. Il y a même des petits calculs, parce que la taxe carbone à 44 euros, les gens du Conseil des prélèvements obligatoires disent on a un scénario modéré à 100 euros et un scénario normal, ambitieux, à 250 euros la tonne. Et là, mais ils nous disent carrément, ils ont fait les petits calculs, hein, pour les gens, pour les 10% les plus touchés par l'augmentation, vous habitez en commune rurale, ça vous prend 105 euros
oui,
de
ça.
Pouvoir
allez-y,
d'achat.
Effrayez-nous,
si,
oui.
Si vous prenez 250 euros de taxe carbone, ça vous mange 430 euros de pouvoir d'achat si vous habitez dans une commune rurale. Donc, attention, on ne pourra pas le faire comme ça.
Les 100 euros, c'est le niveau qui ne permet que d'atteindre la moitié des objectifs qu'on s'est fixés en matière des émissions
Un peu plus, parce qu'on s'est fixé une réduction de 40%, et en fait, si on passe à 100 euros, ce serait une baisse de 29%. Si on passe à 250 euros la tonne, bah, c'est la révolution sociale,
oui.
Ce serait 34% de réduction. Donc voilà, là, ça ne va pas du tout. Donc de toute façon, l'argument fiscal ne suffira pas.
Non, mais elle est stupide, la conclusion du Conseil des prélèvements obligatoires, elle est ridicule. Christian, il a donné tous les arguments. Comment pouvez-vous dire que cette taxe n'est nulle part suffisante pour avoir un impact? Et là, si vous reprenez les travaux, effectivement, de l'OCDE cette semaine, c'est quand même incroyable. 85% des émissions de CO2 liées à l'énergie ne sont pas d'origine routière. Seulement 18% donc de ces 85% d'émissions non routières sont fiscalisées.
Ouais.
Et encore, vous n'en avez que 3% qui sont fiscalisées au-delà de 30 euros la tonne.
Alors attendez,
laissez-moi finir. Vous ne pouvez pas dire que ça n'est pas efficace quand le poids de la taxe est tellement indolore qu'il ne change pas les comportements. Ce qu'on sait, c'est que quand on taxe bien l'essence, eh bien oui, nous dit l'INSEE, si vous augmentez de 10% le prix du carburant, ça fait baisser la consommation de carburant. Et ça marche. Donc on peut pas, comme la taxe elle n'est pas appliquée réellement, on peut pas dire que ça marche pas. C'est pour ça que je conteste un peu la conclusion du Conseil des prélèvements obligatoires.
C'est ça le vrai message de l'OCDE. C'est que la base, elle est trop étroite.
Mais bien sûr.
On taxe vraiment que le routier. Et là, l'OCDE nous sort des stats qui sont absolument incroyables. En nous disant que nous, 1, 2, 3, on est le cinquième pays au monde à taxer le plus les émissions de tonnes sur le routier. Et déjà, donc on peut rien faire d'autre de ce point de vue-là. Ça va être très difficile politiquement parce que Macron a tout planté, mais en plus économiquement, c'est vraiment très difficile d'aller plus loin. Donc il va falloir trouver autre chose. Et le CNE nous dit, regardez, vous prenez le total de tout ce qu'on met sur l'essence et tout. L'essence, c'est 86 euros la tonne de CO2. Vous prenez au-delà de la taxe carbone. Hein. Le diesel, c'est 74 euros. Le charbon, c'est 73 centimes. Du charbon, il y en a partout, qui pollue partout. Mais ils disent, mais taxez donc le charbon.
Alors donc, justement, le Conseil des prélèvements obligatoires a dit, il faut remettre ça, donc il faut remettre ça sur la table,
ouais.
Mais il faut complètement recalibrer les choses. Et là, encore une fois, injonction à taxer les secteurs les plus exonérés.
Oui, entre autres. Alors, il y a l'idée qu'il faut remettre de la progressivité. Alors, j'aime bien l'emploi de ce mot parce qu'il est à double sens. Progressivité dans la durée, hein, pas de choc brutal. Progressivité dans la façon dont on la met en place. Peut-être progressivité aussi dans la façon au niveau du taux. Après, effectivement, il faut élargir la base. Donc, faire payer
la
taxe carbone
à
tout un tas de secteurs qui ne la payent pas aujourd'hui. Et puis surtout, alors, cette idée qu'il faut que le produit de la taxe aille à des destinations précises, moi, je trouve ça ridicule. C'est pas ça qui fait l'efficacité de la taxe. C'est qui elle frappe. Par contre, en revanche, nous dit le Conseil d'analyse économique qui s'est penché aussi sur le sujet, il faut que d'une certaine façon, il y ait une forme de redistribution pour les catégories sociales les plus modestes en fonction de leur lieu d'habitation et en fonction de leurs revenus.
Est-ce qu'on peut imaginer une taxe déclinée quasiment individu par individu, si je vis à la campagne, si je vis en ville, riche et citadine plutôt que pauvre et rural?
Le problème, c'est que plus vous compensez, moins ça a d'effet. Parce que si vous dites aux gens ça va vous coûter plus cher, mais finalement ça va rien vous coûter, bah vous changez pas beaucoup les comportements. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que aussi c'est difficile d'avoir un impact avec la taxe. Et en même temps, faut pas dire aux gens pourquoi les gens des communes rurales qui sont obligés de prendre leur voiture, ce serait eux qui porteraient le coût. Donc il va falloir passer à autre chose, élargir la base, le charbon, le kérosène pour les avions, le transport maritime, etc. Il va falloir élargir la base. Peut-être faire un peu de protectionnisme vert, après tout, parce que la France,
oui.
Nous, on émet de moins en moins en France. Émissions françaises, sauf que notre empreinte carbone, elle progresse. Pourquoi ? Parce qu'on importe le CO2 qu'on produit plus chez nous. Donc il faut quelque part, il va falloir réagir et puis avoir une politique cohérente. On nous dit que le gouvernement est sur un budget vert, par exemple. Un budget vert, ça voudrait dire quoi ? Le gouvernement a décidé le 9 juillet une écotaxe sur les avions, d'accord ? Qui est tellement petite que ça va enlever 182 millions de taxes supplémentaires, alors que les exonérations sur le carburant aérien, c'est 3,6 milliards. Vous voyez qu'il y a une incohérence totale.
Emmanuel Le Chypre, est-ce qu'il faut une taxe carbone aux frontières de l'Europe ?
Il faut une taxe carbone mondiale. En fait, il faut arriver à entraîner un petit groupe de pays au-delà de l'Europe. On peut commencer par l'Europe. Après, le problème, il est bien connu, il est bien identifié par les économistes, c'est que si vous faites ça et que vous ciblez en fait en fonction des pays qui émettent ou pas du CO2, c'est que dans ces pays-là, vous favorisez les producteurs et les entreprises qui sont les moins respectueux de l'environnement, parce que c'est eux qui ont les coûts de production les plus bas. Donc cette taxe aux frontières...
Il va falloir se faire les États-Unis, ce qui n'est pas très évident.
Absolument, cette taxe aux frontières, c'est une façon de sponsoriser dans les pays peu vertueux les entreprises les moins vertueuses. Et ça, c'est un sujet.
Et est-ce que la taxe carbone est aussi un débat chez nos voisins, Christian Emmanuel, en Allemagne? Angela Merkel vient de dévoiler, c'était hier, son plan climat. Guten Morgen, Ludovic Piétenu.
Bonjour Alexandra. Guten Morgen, Alexandra.
Ludovic, vous êtes le correspondant de France Inter en Allemagne. Avant de parler financement, on va d'abord parler ambition. L'Allemagne, elle a été pionnière des énergies renouvelables, mais aujourd'hui, à cause de sa dépendance au charbon, on sait qu'elle va rater ses objectifs de baisse d'émissions de carbone. Donc Ludovic, qu'y a-t-il dans le paquet climat d'Angela ?
Bon, rien de très original, hein. Des aides pour l'achat d'une voiture électrique ou pour changer son vieux mode de chauffage, et puis des taxes. Le gouvernement augmente celles sur les billets d'avion, il baisse celles sur les longs trajets en train, il augmente les taxes sur l'essence et le diesel, mais pour ceux qui utilisent beaucoup leur voiture, il va compenser cela par un coup de pouce fiscal dont bénéficient déjà les navetteurs pour leur aller-retour chaque jour entre le domicile et le travail. Il y a eu face à cette marée verte populaire la volonté de ne pas y ajouter un mouvement du type gilet jaune. Vous parliez de l'éolien, eh bien la réglementation change, les installations sont facilitées, les municipalités aidées, et en 2030, l'Allemagne vise 65% d'électricité produite grâce aux énergies renouvelables. Et si on regarde plus loin, en 2038, la date était déjà connue depuis le début de l'année, la sortie du charbon.
Et comment elle finance tout ça? C'est la taxe carbone?
Oui, en partie, car là aussi, le gouvernement y va tout doux, 10 euros la tonne pour commencer en 2021, puis 20, 25, 30, 35 euros en 2025, plus seulement pour l'industrie et les grosses centrales, c'est élargi, mais uniquement au secteur des transports et du bâtiment, c'est aussi bien inférieur à ce que d'autres pays facturent, et en 2026, tout sera renégociable. Angela Merkel veut croire en la vertu d'un tel système, mais elle se donne aussi l'occasion d'être contredite, même si cela concernera ça ou son successeur. Ce qu'elle assure aujourd'hui, c'est un savant mélange, un savant jeu d'équilibre hybride, mais qui met tout le monde d'accord, sociaux-démocrates et conservateurs, et la coalition semble sauvée avec ça. Elle assure aujourd'hui un plan de plusieurs dizaines de milliards d'euros, sans écorner le dogme budgétaire du Schwarzenegger, le zéro noir, le zéro déficit.
Ludovic Piétenu avec nous depuis Berlin, merci à vous, merci à Christian Chavagneux, à Emmanuel Lechypre. On se retrouve, messieurs, la semaine prochaine, même jour, même heure. Il n'y a pas que les choix budgétaires qui ont un effet positif ou négatif sur le climat. Il y a aussi les choix des investisseurs privés. À venir, dans la prochaine demi-heure, l'invité du Mag Éco, c'est le patron du Crédit Agricole, Philippe Brassac. La finance verte peut-elle sauver la planète? Et d'abord, la finance verte, qu'est-ce que c'est? Par exemple, une obligation verte, qu'est-ce que ça finance? Allez, on respire, on sort du studio.
Bonjour, Caroline Pomès, France Inter.
Jean-Christophe Lemoine, je suis chef de projet exploitation au sein de l'établissement Circulation de Paris Nord.
Où est-ce que vous nous amenez là?
Au poste de commandement à distance de Saint-Denis.
Oui, la gare souterraine. Oui, je te reçois fort et clair.
Donc voilà, on rentre dans la salle d'exploitation.
Il y a des écrans à peu près partout.
Ah ben là, vous avez chaque opérateur qui est sur des postes à peu près entre 8 et 10 écrans pour son poste. On va dire qu'on gère toute la partie Gare du Nord, Île-de-France.
Et vous avez Creil qui arrive bientôt.
Et là, bientôt, au mois de novembre, on a Creil qui arrive. Alors la particularité de Creil, c'est que c'est un nœud ferroviaire. Et là, on se retrouve beaucoup avec du TER et toute la partie Hauts-de-France avec des trains régionaux, des trains corail, des trains grande ligne et du Transilien aussi. Donc à l'arrivée de Creil, dans la salle d'exploitation, on aura 3 personnes supplémentaires. Au niveau technique, on a rechangé des aiguillages, on a rechangé des circuits de voie, on a rechangé des signaux, on a rechangé de la caténaire. Donc il y a beaucoup d'investissements en termes d'infrastructures.
Donc tout ça payé par les grid bonds alors?
Pas nécessairement l'ensemble, mais une partie oui. Jean-Baptiste Frier et je suis chef de projet carbone et énergie à la direction de développement durable de SNCF Réseau.
Alors vous êtes là aussi pour nous expliquer où sont les économies d'énergie, de CO2 dans un tel chantier. Ici on est dans des bureaux, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment ici ce centre de contrôle peut faire économiser du CO2 à la SNCF.
De manière générale, le transport ferré est un transport qui est efficace énergétiquement et très peu émetteur de CO2. Pour 1 km, un voyageur en train va émettre jusqu'à 20 fois moins de CO2 qu'un voyageur en voiture. Et ensuite, les investissements dans l'infrastructure ferroviaire permettent d'en assurer sa continuité. Donc, lorsqu'on investit pour renouveler, que ce soit la signalisation, comme ici la CCR, la voie, c'est-à-dire les rails, le ballast, les traverses, ou les équipements d'alimentation électrique, on permet d'éviter à ces usagers de se reporter vers la voiture, ou l'avion, ou le car, qui sont des modes de transport plus émissifs.
D'accord. Donc dans ce cas-là, tous les projets de modernisation de la SNCF sont éligibles aux green bonds, aux obligations vertes.
Pour l'instant, on a restreint le cadre de nos projets éligibles uniquement au réseau très circulé, c'est-à-dire celui où il y a le plus de monde, et uniquement lorsque les lignes sont électriques. Et donc là-dessus, on est sûr que le nombre de passagers permet de justifier le caractère vert de nos investissements.
La finance verte devient réalité. Nous voilà dans cette tour de contrôle de la SNCF. Voilà 4 ans que ce poste de commande est en chantier, un investissement de 125 millions d'euros. Pour payer la facture, le groupe ferroviaire a emprunté. Et si notre reporter, Caroline Pomès, nous emmène ici, c'est parce que l'entreprise a émis de la dette sous forme d'obligations vertes, un outil financier assez jeune, 5-6 ans d'existence, dont la SNCF s'est emparée. En France, elle est l'un des plus gros émetteurs de green bonds.
Guillaume Enzi, je suis le directeur financement et trésorerie des SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructures du réseau ferroviaire français. Nous pouvons certifier à nos investisseurs le caractère vert, bénéfique pour l'environnement de ces projets. Comment? Toujours via ce fameux rapport qui est certifié par un auditeur indépendant. Et ce rapport doit justement faire la démonstration ex poste du caractère bénéfique pour l'environnement des projets qui ont été financés par les Green Bonds.
Est-ce que tout cela est labellisé? Parce que là, depuis tout à l'heure, on entend que c'est vous qui avez instauré ces critères, vous les avez réfléchis avec une entreprise extérieure. Mais est-ce que ça, c'est labellisé par la France, par la Commission européenne?
Alors, le programme Green Bond, les programmes Green Bond en général, peuvent bénéficier de certifications. En l'occurrence, notre programme Green Bond, chez SNCF Réseau, est l'un des rares au monde qui bénéficie d'une double certification, en l'occurrence Green Bond Principles et Climate Bond Initiative. Donc on a deux certifications qui viennent confirmer à nos investisseurs que nos programmes correspondent aux critères de ces agences indépendantes.
Alors là, dernièrement, vous venez de lever cet été 100 millions d'euros sur 100 ans. Où est-ce que va aller concrètement cet argent? Est-ce que vous pouvez déjà le dire aujourd'hui?
Non, je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui vers quel type d'actifs précisément vont aller ces 100 millions d'euros. En revanche, bien évidemment, ils iront à des projets éligibles et donc ils iront à des projets soit de rénovation, soit à des projets de développement.
Aujourd'hui, ces obligations vertes, elles ne sont qu'une goutte d'eau dans le monde de la finance. Elles ne représentent que 2 à 3% du marché des obligations. Mais en même temps, il y a de plus en plus de demandes. Selon HSBC, depuis janvier, leur nombre a déjà doublé par rapport à l'année dernière. Un phénomène que surveillent de près les associations environnementales. C'est justement le dossier de Lucie Pinson, aux Amis de la Terre. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bien, vous?
Merci de me recevoir.
Le problème aujourd'hui, c'est globalement le manque d'encadrement et de régulation. Donc le cadre de référence est très large, permet d'inclure des activités plus ou moins vertes. Les Amis de la Terre avaient épinglé déjà Engie et le Crédit Agricole qui était derrière cette émission d'obligation en 2014, je crois, puisque Engie, à ce moment-là, émettait une obligation pour aller financer un grand barrage en Amérique latine, qui d'une part n'est pas une solution pour le dérèglement climatique, voire pire, puisque ça a un impact en termes d'émissions de CO2, et bien entendu qui était une catastrophe pour les populations environnantes ou encore pour la biodiversité de la zone. Voilà, malheureusement on voit que sans un plus grand renforcement des règles pour encadrer les obligations vertes, les risques aujourd'hui sont toujours présents, risques de greenwashing.
Et d'éco-blanchiment.
D'éco-blanchiment, voilà. Et au-delà de ça, c'est le fait d'être focalisé sur les obligations vertes et la croyance que les obligations vertes vont permettre de sauver le climat, avec le problème derrière d'avoir en effet des banques ou des émetteurs qui vont émettre des obligations vertes le lundi et le mardi, ils vont continuer le business as usual, leurs activités qui sont nuisibles à la transition énergétique.
On a une idée aujourd'hui des portefeuilles des banques, le pourcentage qui va à des projets durables, à des projets verts?
Alors il y avait une étude d'Oxfam parue en novembre dernier qui montre que sur 10 euros de financement par les banques françaises au secteur énergétique, il y en a toujours 7 qui vont aux énergies fossiles, contre seulement 2 aux énergies renouvelables. On ne parle pas du stock, hein, on parle bien des nouveaux flux financiers. Les banques françaises aujourd'hui financent massivement le dérèglement climatique et non la transition énergétique.
La responsabilité des banques est donc au cœur du système. Philippe Zawati est un des pionniers de la finance verte sur la place de Paris. Il est directeur général de Mirova, société de gestion spécialisée dans le durable, une filiale de Natixis.
Les banques ont un rôle très important qui est de financer les projets et les entreprises. Donc les banques ont un rôle évidemment d'orientation de l'économie. Et donc, comme nous sommes dans une économie qui est en train de changer, qui est une économie en transition, les banques doivent accompagner cette transition.
Est-ce qu'on peut chiffrer leur accompagnement?
Difficile de chiffrer l'accompagnement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les besoins d'investissement sont énormes en France, qu'on a un manque d'investissement. Il manque environ 20 milliards d'euros par an d'investissement pour atteindre nos objectifs en termes de transition écologique, énergétique, pour, disons, remplir nos objectifs de l'accord de Paris.
Alors, les ONG sont vent debout contre les banques, justement. Elles ont ce chiffre qui sort d'une étude d'Oxfam. Sur 10 euros investis par les banques françaises, 7 vont encore dans les financements d'énergie fossile et seulement 2 euros sur du durable. Vous en pensez quoi?
Une banque, elle est naturellement liée à la situation économique qu'elle trouve. C'est-à-dire qu'elle finance ce qui existe. Ce qui est important, c'est pas de regarder la photographie aujourd'hui, parce que par définition, on va avoir la photographie du marché, de l'économie telle qu'elle est, qui est aujourd'hui une économie très carbonée. Donc, ce qu'on va attendre des banques, et là où il faut effectivement exiger de la part des banques une évolution, c'est de leur demander quelle est leur trajectoire. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont avoir un effort spécifique pour réorienter leur financement vers les nouveaux projets.
Qu'est-ce qui freine les banques aujourd'hui ?
On manque de standards. Hein. Donc la définition de qu'est-ce qu'un actif vert aujourd'hui, bon, ben, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors la Commission européenne, à travers son plan d'action sur la finance durable, a décidé de créer ce qu'on appelle une taxonomie, c'est-à-dire une définition pour définir ce que c'est qu'un produit vert et qui normalement devrait être adopté par la nouvelle Commission européenne qui est en train de se mettre en place. Donc ça va avoir un effet important sur le marché parce que cette taxonomie va permettre ensuite de définir des standards pour des produits spécifiques. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation verte ? Comment les banques doivent inciter plus les produits verts ? Et ainsi de suite. C'est pour pouvoir justement avoir plus de transparence et de lisibilité sur cette évolution des banques.
Une classification également nécessaire pour Jezabel Coupé-Soubéran, économiste et professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Mais il faut être encore plus ferme pour l'auteur de Blabla Bank, le discours de l'inaction. Et ça passe par la BCE, c'est à elle de montrer la bonne direction.
Tout doit verdir. C'est la politique monétaire dans son ensemble. Aujourd'hui, les banques centrales devraient essayer de conditionner davantage les refinancements qu'elles apportent aux banques à une implication des banques dans la transition écologique. C'est-à-dire qu'il faudrait que les banques verdissent elles aussi leur bilan, les actifs qu'elles détiennent, et que les refinancements qu'elles obtiennent auprès de la Banque centrale, eh bien, soient conditionnels à cet effort de verdissement de leur bilan. On a la possibilité de le faire. Techniquement, la Banque centrale pourrait très bien faire dépendre le taux auquel elle refinance les établissements de cet effort de verdissement. Les banques centrales pourraient également acheter des actifs sur les marchés qui soient émis par des institutions qui prennent des engagements dans la transition écologique. Et puis, au-delà encore, s'il en a besoin de cette transition écologique, c'est précisément pour réduire le risque climatique et pour prévenir ce risque climatique. Et donc, le risque climatique, c'est aussi un ensemble de risques financiers pour les assurances, pour les banques. Par exemple, s'il y a une fréquence de plus en plus grande des intempéries, des inondations, des incendies, les dommages causés nécessiteront bien entendu des indemnisations, occasionneront des pertes importantes pour les assureurs, pour les banques aussi. Hein. Il y a un risque financier à continuer de financer des entreprises peu vertueuses en matière environnementale, entreprises dont on pourra ensuite engager la responsabilité en la matière. Et donc, pour les banques, ça peut signifier une augmentation du risque de défaut de ces emprunteurs. Donc, les banques vont devoir parer à un risque financier accru par le risque climatique.
La finance verte peut-elle sauver la planète ? C'était le reportage de Caroline Pomès.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et c'est un banquier qui est l'invité d'On n'arrête pas l'écho ce samedi. Bonjour Philippe Brassac.
Bonjour.
Vous êtes à la tête du groupe Crédit Agricole. Crédit Agricole, première banque française, troisième banque européenne, dixième banque mondiale. Alors ce samedi, nous sommes à deux jours du sommet spécial de l'ONU pour le climat. On a compris que les banquiers, les financiers ont un rôle à jouer pour sauver la planète. Philippe Brassac, est-ce qu'ils sont à la hauteur ?
Ben, si vous le permettez, je vais d'abord peut-être rebondir sur le reportage qui est très intéressant, qui vient de se dérouler et dans lequel je vais peut-être vous surprendre, mais on voit bien qu'une nouvelle fois, la finance est un petit peu mise en responsabilité de ces thèmes-là.
Mais je voudrais d'abord dire
qu'on partage totalement les finalités, les diagnostics. Le climat et l'environnement sont aujourd'hui des urgences pour l'humanité. Nous devons assumer nos responsabilités et du coup, il faut qu'on se comprenne mieux, y compris avec les ONG et ceux qui nous observent. D'abord sur les chiffres. Les chiffres qui ont été donnés étaient très intéressants, mais je voudrais les recadrer. Les green bonds, c'est les obligations vertes, c'est aujourd'hui 200 milliards de dollars sur 2019. On a estimé qu'il faudrait mobiliser, lors de la COP21, 1000 milliards chaque année. Donc à la fois, ça signifie que le montant est déjà très significatif et qu'il n'est pas suffisant. La réalité, c'est qu'on a plutôt aujourd'hui intérêt à amplifier et à sponsoriser les obligations vertes, quitte évidemment à les normaliser plus, cela va de soi. Mais nous sommes dans un mouvement qui est déjà très enclenché, et il faut le partager entre nous, qui est encore largement insuffisant.
Alors, si vous êtes d'accord sur le diagnostic, je repose ma question. Est-ce que les banquiers, les financiers sont à la hauteur aujourd'hui, en 2019, de l'enjeu ?
Je pense que oui. Ce qui masque cette réalité, c'est que lorsqu'on diagnostique, et c'est vrai que nous finançons encore à 70% l'économie fossile, c'est parce que l'économie à 90% est fossile. Je pense qu'il serait plus utile de montrer les banques qui, au fond, ont un surpoids dans le financement des énergies renouvelables. Ou alors il faut nous demander d'arrêter de financer l'économie telle qu'elle est. Simplement, la responsabilité aujourd'hui, c'est de mener une transition le plus vite possible, mais cette transition est nécessaire. Mais diagnostiquer qu'à 70% les banques financent encore l'économie fossile, c'est juste constater le monde tel qu'il est aujourd'hui.
C'est la réalité. Vous, jusqu'en juin dernier, vous étiez un mauvais élève, selon les ONG. Et en juin dernier, vous avez reçu une couronne de laurier parce que vous avez pris un engagement sur la sortie du charbon. À quoi vous êtes-vous engagé exactement?
Je crois qu'hélas, ceci est aussi affaire de communication dans un sens comme dans un autre. La réalité, de façon très transparente, c'est que le groupe Crédit Agricole a été probablement une des premières banques au monde en 2015 à annoncer la sortie des mines de charbon en termes de financement. Nous avons ajouté ensuite la sortie de tout le financement des structures charbon, des usines en tant que telles. Et ce que nous avons annoncé à mi-2019, c'est que toute notre politique vis-à-vis de toutes nos grandes entreprises, tous nos grands corporates, serait faite avec une discussion avec chaque entreprise d'ici 2021 pour voir si elles, de leur côté, elles ont bien des plans de transition pour sortir totalement du charbon d'ici 2025 ou 2030.
Et donc, mais ça, c'est très fort. Ça veut dire que le banquier va dire à son client, si vous continuez à être dans le charbon, si je vous ai bien compris, je ne peux plus vous financer, c'est
oui,
ça?
Sauf que la réalité est beaucoup plus positive. C'est qu'on discute avec nos clients qui partagent les mêmes préoccupations. Il ne faut pas penser que les très grandes entreprises sont adverses, au fond, aux enjeux mondiaux, et notamment climatiques. Simplement, nous discutons avec eux de la façon la plus efficace possible pour les accompagner dans cette transition. Moi, je fais l'hypothèse qu'il n'y aura pas d'exclusion, mais plutôt un accompagnement positif de plus en plus fort entre les grandes entreprises et le système bancaire.
Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, on est quand même encore sur un financement massif d'une économie qui est massivement fossile. Ça peut être quoi le coup d'accélérateur?
Le coup d'accélérateur, c'est déjà de considérer, comme je pense nous le faisons nous, c'est qu'au fond, et ça a été dit un petit peu dans le reportage, c'est que on a un modèle tous en tête qui est grosso modo, l'expression a été utilisée, business as usual, sur lequel nous avons rajouté des politiques RSE. Plus ou moins ambitieuse.
Responsabilité sociale et environnementale.
Voilà, une sorte de responsabilité ajoutée. Je pense qu'il faut changer de modèle, la responsabilité doit être intégrée au cœur de tous les business. Je vais dire une chose qui paraît peut-être un peu excessive, mais elle ne l'est pas du tout. Je pense que nous, dirigeants, nous devons sélectionner et nous devons mener des politiques qui toutes ont des bénéfices positifs pour l'environnement et la société.
Est-ce que j'ai dit là en clair, Philippe Brassac, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la politique RSE ne doit pas se rajouter. C'est-à-dire que toutes nos politiques, tous nos business
doivent passer par un crible vert?
Doivent passer par un crible positif, parce que le vert, pardon, ce n'est hélas pas le seul défi de la planète. Les questions d'inclusion, notamment, de façon générale, dans nos sociétés, doivent également être prises en compte.
Oui, mais ça fait 20 ans. Moi, mon premier sujet sur la finance responsable pour l'environnement et la société, c'était il y a 20 ans. Donc quand vous dites on doit tout passer par le crible vert, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui va changer maintenant? Est-ce qu'on a bien vu là dans le reportage, la finance responsable, c'est chacun selon sa volonté, avec des labels qui sont avec des critères très lâches et il n'y a pas de sanctions.
Pardonnez-moi de vous interrompre là-dessus, je ne partage pas, nous faisons notre métier du mieux possible, je peux vous dire. En l'occurrence, la finance verte, les green bonds, c'est le Crédit Agricole qui les a quasiment fait émerger, à une époque où personne n'en parlait. Nous sommes devenus les leaders mondiaux des green bonds. Il y a 3 ans, lorsque je passais en Asie, je vendais des green bonds aux autorités, personne ne voulait en entendre parler. Maintenant, tout le monde est là-dessus. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non. Mais je pense que culturellement, ces choses se sont étendues. Et donc, nous devons amplifier en réalité ce que nous faisons. Et en fait, la vraie transformation, c'est qu'on considère que ce n'est pas un supplément d'âme, c'est du business. Le business, il doit être utile en l'environnement. Ce n'est pas restrictif.
Pourquoi ce mouvement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une peur des risques financiers? Est-ce qu'il y a la pression sociale? Est-ce que vous pensez que de toute façon, compte tenu de l'urgence, la réglementation va devenir plus dure? Est-ce que c'est ça aussi
non,
que les banques doivent prendre en compte?
Je pense qu'en raison, je ne dis pas qu'il n'y a pas des dérives de temps en temps, mais en raison, y compris dans un capitalisme appelé dur, l'utilité est la loi la plus dure des marchés. Si vous n'êtes pas utile à votre environnement, vous dégagez. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les clients, les médias vous excluront des business. Donc, il est naturel, pas adverse, à ce que tous les business, quels qu'ils soient, soient producteurs de bénéfices sociétaux. Et aujourd'hui, l'urgence, elle est climatique, elle est environnementale.
La banque qui ne sera pas assez écologique, elle dégagera?
Oui.
Est-ce que la taxinomie, c'est-à-dire la classification quand même de la finance verte par la Commission européenne, ça va permettre d'être un peu moins lâche dans la finance verte?
Oui, peut-être, mais d'un autre côté, la meilleure chose qui puisse apparaître, c'est que ceci soit considéré comme faisant apparaître de la libre concurrence. Laissez les banques se faire concurrence entre elles et elles feront du mieux possible. Alors, j'ai entendu dans le reportage, là encore, voilà, nos amis de la Terre nous disent que ce que nous avons fait, notamment avec Engie sur un barrage hydroélectrique, c'était une catastrophe. Il se trouve que sur le plan opérationnel, ça a pu être le cas. Mais en même temps, nous aidons à investir sur des énergies qui ne sont pas fossiles, ou en tout cas qui le sont beaucoup moins. Et donc simplement, si nous amplifions la valeur de ces choses-là, je suis sûr qu'entre une taxonomie qui doit être structurée par les régulateurs, mais aussi une concurrence saine, on va faire apparaître le plus important, c'est que ceci n'est pas une contrainte. Ceci est du business positif pour notre environnement.
Dernière question sur la finance verte et le crédit agricole. Là, vous avez donc fait des annonces sur le charbon.
Oui.
Évidemment, la prochaine question, c'est et le pétrole, vous en êtes où ?
Honnêtement, vous savez très bien que ce n'est pas le système financier qui va faire en sorte que les sociétés soient moins en usage du pétrole. Là encore, il faut quand même regarder les choses de façon duale. La finance accompagne l'économie. La finance n'est pas l'économie. Nous avons notre responsabilité. Nous devons décourager et encourager. Mais il faut que les projets fondamentalement de décarbonation, de façon générale, au fond, apparaissent de façon plus massive et de façon profitable pour que ce soit les économies qui s'alignent là-dessus.
Au chapitre des risques financiers, certains sont inquiétés cette semaine. Ils ont vu que la Réserve fédérale américaine injectait des milliards de dollars, 75 milliards par jour, dans le système. C'est très technique, mais certains financiers sur la place de Paris disent que ça leur rappelle un signe avant-coureur de 2007. Très simplement, d'un mot, est-ce que vous, ça vous inquiète ?
Il n'y a pas le même lien de cause à effet entre ce qui s'est passé en 2007 et 2008. Simplement, ça montre la nervosité d'une certaine façon des marchés, de façon générale. Les immenses quantités de liquidités qui sont placées dans le système sont replacées d'une façon ou d'une autre, et d'ailleurs pour l'instant plutôt en titre d'État, un peu partout dans le monde. Et comme ils sont replacés, eh bien, de temps en temps, il y a des tensions techniques pour respecter les réserves obligatoires dans les banques. Et là, vous voyez la réserve fédérale qui a été prise finalement en défaut de prudence sur les réserves de liquidités dollars.
Une dernière question, Philippe Brassac. Tout le monde est en train de repenser le capitalisme. J'imagine qu'un banquier, ça lit le Financial Times. Vous avez peut-être vu cette une, Time to Reset. Il est temps de remettre le compteur à zéro pour le capitalisme cette semaine. Vous y croyez encore, vous, au capitalisme ?
Oui, je crois au capitalisme fondamentalement, mais le capitalisme couvre beaucoup de choses. Il y a celui qui peut être, au fond, pointé du doigt sur le thème de recherche de bénéfices sans finalité particulière, ou en tout cas bénéfices sociétaux. Et puis, il y a ce capitalisme que nous assumons dans le modèle coopératif et mutualiste, qui fondamentalement, et c'est pas de la communication, s'attache, au fond, à la santé, à l'avenir des territoires. Et pour cela, il faut faire du profit. Pour cela, il faut faire des fonds propres, il faut faire des réserves. Et donc, ce capitalisme qui n'oublie pas ou qui repense une nouvelle fois d'abord les finalités et ensuite, dans un lien vertueux, les obligations de gestion pour être efficace et rentable, c'est un capitalisme qui a de l'avenir.
Philippe Brassac, le patron du Crédit Agricole. Merci d'avoir été
Merci
sur France Inter. Ma vie au boulot, Sandrine Foulon. Des entreprises incitent leurs employés à descendre dans la rue pour défendre le climat. Est-ce une façon, vous demande Hugo, qui aime un peu la provoque, de s'acheter une conscience verte à peu de frais?
Les employeurs grévistes, c'est assez nouveau. On a vu des proviseurs, des profs, des parents très favorables à ce que les lycéens manifestent contre le réchauffement climatique. Là, ce sont des entreprises qui incitent leurs employés et leurs clients à se joindre à cette mobilisation mondiale pour le climat. Hier, la marque de vêtements californienne Patagonia a fermé toutes ses boutiques dans le monde et recommencera vendredi prochain. Accessoirement, les salariés seront payés comme une journée normale de boulot. C'est une fermeture imposée par la direction. La chaîne de prêt-à-porter Burton a aussi baissé le rideau et c'était pas la peine d'essayer d'acheter en ligne. Burton redirigeait ses clients vers le site de la grève mondiale pour le climat. En plus de fermer ses bureaux, l'entreprise de produits de nettoyage Seventh Generation du groupe Unilever a offert pendant une semaine son temps de spot publicitaire télé aux organisateurs du mouvement pour le climat. Chez Ben & Jerry's, il n'y avait personne, ni au siège, ni dans les boutiques. Le glacier a ralenti la production dans ses usines. Ce n'est pas encore un raz-de-marée, mais partout dans le monde, des entreprises comme Zalando, Flixbus ou Levi's incitent leurs salariés à défendre la planète. Allez, pour une fois, ne boudons pas notre plaisir.
Sandrine, si je suis l'idée d'Hugo, quand même, c'est pour la bonne cause, mais est-ce que c'est aussi une manière de se faire de la pub ?
Évidemment, c'est difficile de trouver une entreprise qui ne soit pas labellisée labellisés bio, écolo, durable et responsable. Mais ce n'est pas qu'une question de com. Les employeurs savent que leurs clients et leurs salariés sont de plus en plus sensibles aux questions climatiques. Les salariés d'Amazon ont fait une grève, une vraie, à leur initiative, pour dénoncer les pratiques peu climatiques du géant de la livraison. Jeff Bezos a reçu le message 5 sur 5. Il a promis cette semaine d'atteindre les engagements de l'accord de Paris avec 10 ans d'avance. Hugo, oui, il y a une contradiction à voir des entreprises qui poussent à la consommation verdir leur discours. Elles produisent par nature et contre la nature. La mode est la deuxième industrie et fait partie des industries les plus polluantes au monde. Oui. Elle provoque 10% des émissions de CO2. En Europe, entre 4 et 6 millions de tonnes de vêtements sont jetées et détruites chaque année. L'industrie numérique, c'est pas mieux. Fabriquer un smartphone, ça pollue. Regarder une vidéo en ligne, c'est catastrophique. Envoyer un email à un collègue avec une pièce jointe revient à laisser une ampoule allumée pendant 25 minutes. Les entreprises sont-elles prêtes à produire moins et nous à résister plus à nos désirs de consommation? Il faudra sans doute beaucoup de grèves contre le réchauffement climatique.
Sandrine Foulon, ma vieux boulot, on peut lui écrire à Sandrine sur le site franceinter.fr à la page de l'émission. Et puis, tiens, vous pouvez nous réécouter sur l'application Radio France.